magazine des Nations Unies.
Bienvenue à votre magazine du dimanche avec à la une la convention entre le PAM et la France sur les opérations d'urgence dans l'est de la RDC. Le PAM a reçu de la France un financement d'1 million d'euros. Et notre invité de ce dimanche est le coordonnateur du programme de lutte contre la pauvreté du PNUD Nord-Kivu. Au micro de Jean-Pierre Elali, il nous parle des initiatives locales qui sont menées pour lutter contre la pauvreté au Nord-Kivu. Mais avant cela, nous allons dans notre rubrique décryptage comprendre ce que signifie la femme rurale. Restez avec nous pour la suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bon dimanche et merci d'écouter ce 40e numéro de votre magazine. L'actualité cette semaine, c'est la convention entre le PAM et la France relative aux opérations d'urgence dans l'est de la République démocratique du Congo. Le programme alimentaire mondial a reçu de la France un financement d'1 million d'euros. Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie et le PAM, ont signé la dite convention lundi 15 octobre dernier à Kanyaruchinya, c'est à 10 km au nord de Goma, ce qui va permettre à cette agence onusienne de poursuivre ses opérations d'urgence en faveur des déplacés. Denise Loukesso.
Cette contribution de la France, dont la convention vient d'être signée, a permis au PAM d'acheter plus de 1000 tonnes de vivres qui sont en cours d'acheminement, indique cette organisation des Nations Unies. Cette aide alimentaire sera distribuée à près de 100 000 personnes déplacées durant un mois. Lundi après-midi, la ministre française déléguée à la francophonie s'était rendue au camp des déplacés de Kanyaruchinya, 10 km au nord de Goma, où elle s'est inquiétée de la situation des déplacés venus pour la plupart du territoire de Rutshuru, dont une partie est occupée par les M23. S'adressant aux déplacés, Yamine Benguigui a déclaré que la France est à leur côté. Elle a souligné qu'il faut absolument que toutes les forces se mobilisent, notamment l'Union européenne, mais aussi la RDC, pour que la paix revienne dans cette partie de la République et que ces camps disparaissent. Pour les PAM, à ce jour, les besoins de financement s'élèvent à 66,3 millions de dollars américains. Notons que les PAM nourrit plus de 500 000 personnes au nord et sud Kivu, des personnes ayant fui les affrontements armés entre janvier et août 2012. Rappelons que les camps de Kanyaruchinya comptent actuellement plus de 15 000 familles de déplacés, dont quelques 11 000 seulement sont assistées par les humanitaires. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La femme rurale a été à l'honneur le 15 octobre dernier à travers le monde et cette année, les Nations Unies ont mis l'accent sur son autonomisation et son rôle dans l'éradication de la pauvreté. Femme rurale et autonomisation, ces deux concepts font l'objet du décryptage de ce magazine. Franck Kamunga, le chargé de communication et mobilisation des ressources à l'ONU Femmes, nous explique ces concepts et bien d'autres, bien sûr, au micro de Honoré Missenga.
Franck Kamunga, bonjour.
Bonjour.
Le 15 octobre est consacré par la communauté internationale à la femme rurale et les Nations Unies mettent un accent sur l'autonomisation de cette femme. Alors, quelle compréhension ONU Femmes se fait-elle de ces deux concepts, femme rurale et autonomisation? Qu'entendez-vous par femme rurale?
La femme rurale, c'est celle qui vit dans le milieu rural et la définition du milieu rural est très connue. Il y a la définition géographique des milieux dans lesquels cette femme vit, ensemble avec les différentes populations.
Cette femme rurale, en quoi elle est différente d'autres catégories sociales des femmes?
Commencer par le mode de vie que cette femme passe. Ça veut dire qu'elle vit des champs, elle vit de l'agriculture, de l'élevage, vraiment des choses de base pratiquement. La nette différence qui fait avec cette femme, c'est que le moyen par lequel cette femme vit, l'accès à l'éducation, l'accès à des moyens de survie, est tout à fait différent avec la femme urbaine qui peut facilement avoir l'accès à l'électricité, elle peut avoir accès à l'eau potable, elle peut avoir accès à l'éducation très facilement, à la nouvelle technologie de communication et d'information. Donc il y a autant de facilités qui font que la nette différence entre la femme rurale et la femme urbaine est vraiment établie.
Franck Kamunga, comment l'ONU Femmes conçoit le rôle de la femme rurale dans la société où elle vit et dans l'ensemble du pays?
Je ne veux pas séparer la conception de l'ONU Femmes et celle de la population entière par rapport à la conception et au rôle de la femme rurale. Vous êtes d'accord avec moi que à chaque repas, dans chacune de nos maisons, nous consommons des légumes et autant de produits qui viennent de la femme rurale. Et son rôle est à la fois par rapport à la survie et non seulement de la population qui vit en milieu rural, et même de la population qui vit en milieu urbain. Donc, elle est cette femme qui nourrit tous nos ménages, elle est cette femme qui produit du maïs, qui produit du manioc. Donc, elle joue un rôle très fondamental dans notre quotidien.
Et c'est pourquoi on préconise son autonomisation.
Effectivement, parce que si cette femme continue à produire pour vendre un ou deux jours, et le produit de cette vente est utilisé pour sa propre survie, ça dit que sa vie continuera à être la même pour longtemps et son ménage restera le même pour longtemps, et donc elle ne peut pas améliorer son mode de vie, elle ne peut pas améliorer sa façon d'être. Et ça, c'est un argumentaire solide pour appuyer son autonomisation. Je voudrais d'abord énoncer quelques principes de base par rapport à l'autonomisation.
Je vous en prie.
Lorsque on parle de l'autonomisation, il est important de faire remarquer que on ne peut pas prétendre autonomiser la femme en lui donnant juste le moyen de survie. La plupart des projets jusqu'à ce jour se sont contentés de donner à la femme rurale un crédit qui lui permette d'acheter peut-être un sac de farine, de fromage pour revendre, ou quelque chose qui lui permet juste de prendre soin de sa famille. Par contre, lorsque on met la notion d'autonomisation, il y a la notion d'entrepreneuriat qu'il faut avoir à l'esprit. Ça veut dire autrement, il faut donner à la femme la possibilité de créer des ressources qui lui permettent non seulement de vivre en tant que telle par son ménage, mais créer un environnement où ces ressources peuvent être multipliées, créer des emplois et faire de cette façon que elle quitte le secteur informel vers le secteur formel, ça peut être.
Donc la femme rurale doit aussi avoir accès au crédit.
Justement, il n'y a pas de discrimination possible à faire par rapport à l'accès aux ressources. La femme rurale ou urbaine, elles doivent toutes être traitées de la même façon, elles doivent avoir accès aux ressources. Et puis quand je vois les ressources, je ne parle pas seulement de ressources financières. Je regarde aussi l'accès à la terre, l'héritage et tout un état de choses qui permettent à cette femme d'avoir accès aux mêmes moyens que la femme urbaine pour se permettre d'évoluer.
Oui, par rapport à l'accès à la terre, il y a ce problème-là. La femme n'est presque jamais propriétaire de terre.
C'est un problème fondamental et j'apprécie à juste titre les différentes réformes en cours par rapport à la loi foncière, aux différentes législations par rapport à l'accès à la terre à la femme. Et même d'ailleurs, cette réforme du code de la famille qui lui permet d'avoir l'accès à la terre au même titre que les hommes.
Qu'est-ce que la femme rurale peut attendre des ONU Femmes?
De par même le fondement du mandat de l'ONU Femmes, nous avons la responsabilité de travailler pour l'autonomisation de la femme. Pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a deux études en cours de recherche pour la ville de Kinshasa et l'Équateur pour essayer de voir, mener une étude systématique, identifier les grands obstacles et voir dans quelle mesure reformuler un projet de grande envergure et trouver le moyen de faciliter l'accès aux ressources, à la fois pour la femme rurale et la femme urbaine, et également utiliser ces ressources pour pallier à tout un lot de problèmes qui seront énumérés. Et en plus de cela, nous venons d'une tournée à l'Est avec la représentante de l'ONU Femmes, Madame Françoise Nguendahayou, qui a textuellement visité certaines des réalisations de l'ONU Femmes avec notre bureau qui est basé à Bukavu et qui supervise toutes les provinces de l'Est. Nous avons travaillé avec les organisations de la société civile dans le cadre de réinsertion socio-économique pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles basées sur le genre à Nyangezi, Kamanyola, ainsi de suite. Nous avons facilité aussi l'acquisition de matériel didactique pour la réinsertion des filles mères dans certains territoires, pour leur donner la possibilité non pas de recourir à la prostitution comme moyen de survie, mais plutôt d'utiliser leurs connaissances techniques dans la coupe et couture, la pâtisserie, ainsi de suite, et trouver les moyens de survie. Et donc, il y a tout un lot de projets et de perspectives en cours au niveau de l'ONU Femmes pour faciliter l'accès aux ressources et surtout initier les femmes à quitter le secteur informel qui les maintient éternellement en train de vendre les beignets, vendre du pain, ainsi de suite, mais avoir le courage de se mettre ensemble, faire de petites et moyennes entreprises et aller vers l'entrepreneuriat comme un mécanisme de durabilité.
Franck Kamunga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
En bref, Une importante mission des bailleurs de fonds séjournera en RDC à partir de ce dimanche 21 jusqu'au 27 octobre. Cette mission organisée par le HCR se rendra respectivement à Goma dans le Nord Kivu et à Dongo à l'Équateur. Objectif, visiter les activités du HCR dans le cadre de la protection des réfugiés et des déplacés internes. La PNC Bounia dispose désormais d'un centre de santé. Il sera géré par des médecins de la police nationale qui vont proposer un appui médical gratuit à la communauté locale, particulièrement aux victimes de violences sexuelles. C'est l'OIM qui a mis en œuvre la construction de cet ouvrage. Au Nord Kivu, plus de 200 000 élèves bénéficieront pendant l'année scolaire 2012-2013 des repas offerts par le PAM. Cela dans le cadre de son programme de cantine scolaire. Enfin, sachez qu'une quarantaine de magistrats de Lubumbashi ont participé du lundi 15 au mercredi 17 octobre dernier à un atelier de formation sur les techniques d'administration de la justice pour mineurs. Le bureau de l'UNICEF Lubumbashi a organisé cet atelier en partenariat avec le tribunal pour enfants de la capitale du cuivre.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 17 octobre dernier, le monde a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Plusieurs initiatives locales sont menées dans ce sens au Nord Kivu, malgré les conflits qui écument cette province. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et d'autres partenaires essayent d'appuyer ces initiatives en mettant en place des stratégies de développement. Jean-François Dubuisson, coordonnateur du programme de lutte contre la pauvreté du PNUD au Nord Kivu, qui est notre invité de ce dimanche, revient sur ces stratégies. Ils s'entretiennent avec Jean-Pierre Elali, Coco.
Jean-François Dubuisson, bonjour.
Bonjour.
Le monde célèbre ce 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Que vous inspire cet événement au moment où une partie de la RDC, c'est-à-dire le Nord Kivu, est confrontée à des conflits?
Oui, cette journée internationale est, selon moi, avant tout un signal d'encouragement pour toutes les forces vives, les organisations et les... sur le terrain, au niveau national et dans les villages, qui travaillent effectivement pour rehausser le niveau de vie des populations et aller vers le dans le sens du développement. Et il y en a beaucoup. Mais cette journée, selon moi, est aussi un signal clair pour qu'on puisse trouver une solution durable au conflit qui reste très important à l'est du Congo en particulier. Parce que la paix et le développement vont de pair. Il est très difficile de développer des mécanismes durables de réduction de la pauvreté s'il n'y a pas un climat...
Il y a un rapport entre la paix et le développement, mais il y a aussi la pauvreté. La pauvreté est visible en RDC. Plus de 71% des Congolais vivent avec moins d'un dollar par jour, vous le savez. C'est là, bien sûr, le rapport mondial sur le développement humain de 2011. Par où peut-on commencer, M. François, pour relever les défis de la pauvreté en RDC?
Oui, vous savez que la pauvreté n'est pas... a beaucoup de dimensions. C'est en liaison avec l'éducation, avec les ressources disponibles, mais également avec l'accompagnement qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un concept multidisciplinaire, beaucoup d'éléments. Et pour cette raison, la stratégie qu'on peut mettre en œuvre n'est pas simple. Et elle passe par différents niveaux. Pour lutter efficacement contre la pauvreté, on doit réellement avoir une bonne appropriation nationale, donc le gouvernement et les différentes structures d'accompagnement de l'État ou de la société civile, avoir une stratégie intégrée et coordonnée par rapport à ça. Seulement avec les appuis des organisations internationales, on pourra lutter efficacement contre la pauvreté. Cette question de leadership et d'appropriation au niveau national est très importante.
Est-ce que, au niveau de votre organisation, vous avez des stratégies sur place pour lutter efficacement contre la pauvreté au Nord Kivu? Je parle du PNUD.
Oui, au niveau du Nord Kivu et pour le PNUD, on travaille d'abord en appui et en partenariat avec le gouvernement provincial pour les questions de planification du développement qui inclut également la réduction et l'éradication de la pauvreté par la mise en place des cadres de planification, donc tous les mécanismes les comités et autres qui vont permettre au gouvernement provincial de faire le suivi de différentes initiatives et coordonner tout cela. Nous avons une série d'activités qu'on réalise sous le terrain avec les communautés.
Qu'est-ce que vous faites vraiment concrètement, les stratégies dont les activités menées sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets pour qu'on comprenne un peu comment NUD accompagne le gouvernement provincial pour justement lutter contre la pauvreté dans le Nord?
Oui, on a un programme qu'on appelle de relèvement communautaire qui intègre plusieurs composants, notamment c'est de revitaliser les économies locales par des petites infrastructures de commercialisation, mais aussi un appui au système de formation professionnelle et également un travail sur l'accès à l'énergie. Une autre composante, c'est tout ce qui concerne la réintégration socio-économique et communautaire de certains groupes vulnérables, en particulier les anciens combattants, les retournés et des victimes de violences sexuelles. Et puis, un troisième volet qu'on met en place avec la partie nationale, c'est tous les aspects liés à la gouvernance communautaire, comment les communautés sur le terrain peuvent essayer de coordonner les différentes initiatives de réduction de la pauvreté qui sont menées dans leur village, mais aussi comment est-ce que ces communautés peuvent contribuer à consolider la paix et à prévenir les conflits dans leur milieu.
Quelles sont les difficultés que le PNUD rencontre sur le terrain dans la réalisation de ces activités? Bien sûr, dans les cadres de l'élimination de la pauvreté.
Oui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appropriation par les différents niveaux est très importante pour une réduction durable et l'éradication de la pauvreté. On ne peut pas réduire la pauvreté de quelqu'un ne participe pas à cette pauvreté. Et la population doit prendre en charge, doit être conscientisée, intégrer le fait que l'élimination de la pauvreté, ça commence par ses propres efforts. Il y a eu beaucoup d'actions d'appui humanitaire, en particulier ici au Nord Kivu, à l'est de la RDC, pour sauver des vies dans des situations d'urgence depuis une quinzaine d'années.
Oui, vous parlez de la participation locale. Quelle est la place que vous donnez à la microfinance, par exemple? C'est une activité qui est menée par le PNUD au niveau du Nord Kivu?
Oui, donc en matière de microfinance, le PNUD a un volet qui s'appelle le programme d'appui au secteur de la microfinance, qui appuie à développer, je dirais, une offre de services financiers, d'épargne et de crédit par les institutions de microfinance reconnues par la Banque centrale au Nord Kivu, comme la Mécrébéni. Mais également, on essaye de sensibiliser les populations accompagnées par différents programmes à développer des réflexes d'épargne. C'est de créer des petits groupes où les gens décident eux-mêmes leur stratégie d'épargne et de crédit au sein du groupe.
Et là, les PNUD viennent en appui?
Oui, bien sûr. Nous n'intervenons pas directement sous le terrain. On travaille toujours avec des partenaires.
Le 15 octobre, le monde a également célébré la Journée internationale de la femme rurale. Quelles sont les actions concrètes du PNUD pour une implication plus accrue de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté?
Oui, en cette matière, pour l'implication ou le développement des femmes rurales, le PNUD a mis en place ce qu'on appelle les centres communautaires polyvalents, qui sont des structures multidisciplinaires qui appuient les femmes rurales et vulnérables à s'autonomiser, à s'intégrer davantage dans les communautés. Et là, on vise particulièrement les femmes qui ont été affectées par les conflits, victimes de violences sexuelles, veuves, déplacées ou autres. Et ces centres...
Où est-ce qu'on peut les trouver, ces centres? C'est à Goma, ou essentiellement?
Il y a une douzaine de centres au nord et sud Kivu. Au nord Kivu, c'est essentiellement dans le territoire de Beni. Il y en a cinq qui ont été mis en place. Mm-hmm. Et un à Mugunga. Ça, c'est vraiment une contribution concrète du PNUD et de ses partenaires pour le développement et la promotion de femmes en milieu rural en particulier.
Jean-François Desbuissons, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous parlons toujours de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Jean-Pierre Elali nous emmène cette fois-ci dans le Bas-Congo, où des activités d'autofinancement sont organisées à Kikonka, près de Kisantu. Des associations paysannes se prennent en charge dans une espèce de solidarité communautaire, notamment dans l'agriculture, l'élevage, la microfinance, l'éducation. Objectif, lutter avec les moyens de bord contre la pauvreté. Jean-Pierre Elali nous raconte.
Salamo, ya ubetumetala.
C'est avec cette mélopée qu'une vingtaine de femmes nous accueillent dans une vaste étendue de champs, à environ un kilomètre de Kikonka, près de Kisantu. Ces champs comprennent 8 hectares, dont 5 de manioc et 3 d'arachide, avec des semences améliorées. C'est le fruit des 6 mois de dur labeur, raconte l'une d'elles. C'est une initiative sur fonds propres du groupe des femmes pour le développement de Kikonka. Madame Mayenga Raphaël, la présidente de cette association, parle de l'objectif poursuivi.
Améliorer les conditions socio-économiques, promouvoir de nouvelles méthodes culturelles, l'alphabétisation de la masse illettrée, lutte contre la pauvreté, lutter contre la maladie endémique, tuberculose, VIH, sida.
Une autre initiative pour le développement visitée, c'est les centres d'accompagnement de l'enfant et de la jeunesse défavorisée, CRAJED en sigle. C'est un projet de l'abbé Simon Lumbela du diocèse de Kisantu. Il encadre 86 enfants défavorisés de moins de 10 ans. Pour ce faire, l'homme de Dieu entretient des projets d'autofinancement qui vont de l'élevage à l'agriculture en passant par l'éducation et la pisciculture. Lambert Matita, consultant du CRAJED, explique.
Oui, les étangs que vous êtes en train de voir ici, c'est une des activités du centre. Le centre a dans son sein quelques domaines. Il y a l'orphelinat que vous venez de voir. Il y a aussi les écoles. Il y a une école primaire et une école secondaire. Et il y a aussi les activités agricoles. Donc, pour faire face au problème d'orphelinat, M. Labbé, qui est le propriétaire de ce centre, a préféré créer des activités d'autofinancement. Vous avez les étangs piscicoles ici. Ces étangs piscicoles, c'est pour permettre aussi à un certain moment de varier au moins les aliments qu'on donne aux orphelins. Et ici, il y a des poissons, il y a une porcherie qui permet, les déchets permet aussi à faire nourrir ces poissons qui se trouvent dans ces étangs ici.
À ces initiatives de lutte contre la pauvreté, il faut ajouter la mutuelle de solidarité qui excelle dans la microfinance. Toutes ces associations sollicitent l'appui du PNUD pour renforcer leur production et chasser ainsi la pauvreté des milieux ruraux.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Professeur Michel Tissonama, actuellement professeur à l'Université pédagogique nationale, et je suis l'assistant au représentant de la FAO, chargé des programmes de la FAO en République démocratique du Congo. J'ai fait les études primaires normalement dans la province orientale, mes études secondaires aussi dans cette même province orientale. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur agronome, agroéconomiste si vous voulez, à l'Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi. Après cela, j'ai obtenu un diplôme de troisième cycle à l'université de Jean Blou, en Belgique. Et après cela, je suis docteur en économie agricole. Je suis un ancien nouveau de la FAO. Si je dis ancien et nouveau, j'ai commencé ma carrière à la FAO. Lorsque j'ai quitté l'université, c'est la FAO qui était mon premier employeur. J'ai passé 3 ans avec la FAO à Kisangani, à Goma et à Bunia. Après, la FAO m'a recruté encore pour Kinshasa, où j'ai passé 3 ans. Là, maintenant, je suis revenu à la FAO il y a de cela 3 mois. Au-delà de la FAO, j'ai été économiste national du PNUD, c'est d'où je viens pour la FAO. Mais j'ai travaillé aussi au programme international de conservation des gorilles. J'ai enseigné dans plusieurs universités du pays. Ici à l'Université pédagogique nationale, j'enseigne à l'Université catholique au Congo, j'enseigne à IFAD, Institut facultaire de développement, et j'enseigne dans les provinces, à Kisangani, à Bunia, à Ituri et à Goma. Et ma journée à la FAO, c'est toujours très chargée. Si j'arrive tard, c'est à 7h30, la lecture de mails, parce qu'il y en a une centaine qui arrivent chaque jour. Pendant la journée, je suis toujours entre des réunions où je représente mon organisation. Je peux dire que 30 à 40% de ma journée, c'est dans des réunions. Le reste, c'est le travail habituel, les signataires qui passent, la planification des programmes, le suivi des programmes, les autorisations de paiement, ainsi de suite. Mon temps libre, généralement, comme je n'en ai pas beaucoup, c'est souvent les week-ends. Et les soirs, c'est à la maison, avec ma famille. Et de temps en temps,
pour dire que c'est pas très fréquent. Je peux aussi être quelque part en train de manger la viande de chèvre. Généralement, c'est à Bon Marché ou à Vandal. Le reste de mon temps libre, c'est beaucoup plus consacré à la lecture. J'aime aussi la musique. Par exemple, la musique de Koffi Olomide, Fali Ipupa. Ça me fait rire. Je vais écouter, mais je ne suis pas un bon chanteur. Le sport, je regarde souvent le football. Chabani, ici au Congo. Chabani Nonda est celui que je préfère. Comme je suis agronome, j'ai déjà des activités agricoles que je compte vraiment développer. Ce que je rêve, c'est de devenir un grand fermier où je consacre presque tout mon temps à la ferme. Bon, un dernier mot, c'est juste de saluer ma femme et mes enfants. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Sarah Feza, je suis étudiante à l'ISP Gombe. Ma question s'adresse au Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. La communauté internationale commémore ce 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort. Alors, qu'est dit la législation congolaise concernant la peine de mort et quel rôle peut jouer le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour amener le gouvernement de la RDC à abolir la peine de mort? Merci.
Sarah Feza, merci pour la question. Et pour vous répondre, nous avons dans ce studio Maître Bertin Toumbampoi, officier aux droits de l'homme au BCNUDH.
Merci pour la question, une très belle question, très pertinente. La législation congolaise, notamment le Code pénal congolais en son article 5, prévoit comme l'une des peines applicables aux infractions commises, notamment la peine de mort. Nous avons également le Code pénal militaire qui s'applique qu'appliquent les juridictions militaires notamment, qui prévoit également, à son article 26, la peine de mort comme l'une des peines retenues pour les infractions au code militaire. Donc, à travers ces deux principaux textes, nous disons que la loi congolaise prévoit encore en ce jour la peine de mort, elle est encore en vigueur, mais seulement elle n'est plus appliquée depuis un certain temps. Il faut peut-être le rappeler, depuis presque 10 ans, il y a ce qu'on appelle le moratoire sur la peine de mort, c'est-à-dire que la peine est là, elle est en vigueur, elle est prononcée par les cours des tribunaux répressifs, mais seulement elle n'est pas appliquée. Et donc, l'application de cette peine est suspendue. Voilà. La RDC, comme bien d'autres pays, a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment le pacte civil relatif aux droits civils et politiques. Il y a aussi le statut de Rome. Tous ces instruments interdisent l'application de la peine de mort. Et la RDC a récemment introduit, il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui a malheureusement été rejetée, tendant à abolir la peine de mort. Mais nous nous réjouissons du fait que le gouvernement sortant, l'ancien gouvernement plutôt, par la voix du ministre de la Justice, avait déclaré que l'abolition de la peine de mort était l'une des priorités de ce gouvernement, du gouvernement congolais. Donc, le BCNUDH travaille, comme il a toujours fait, à appuyer, à assister le gouvernement à mettre en place les réformes nécessaires pour que l'abolition de la peine de mort soit vraiment une réalité dans ce pays. J'aimerais rappeler la position de la haut-commissaire aux droits de l'homme, qui a souhaité que tous les pays dans lesquels le moratoire existe encore quittent ce statut de moratoire pour parvenir à l'abolition totale, à l'abolition pure et simple de la peine de mort à travers la législation nationale.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
place au rendez-vous de la semaine du 22 au 28 octobre. Le 24 octobre prochain, c'est dans 3 jours, et ce sera la journée des Nations Unies. À Kinshasa, une cérémonie officielle est prévue au quartier général de la MONUSCO, ainsi qu'une visite par le personnel du système onusien dans des établissements scolaires. Ces visites permettront au personnel onusien d'informer les élèves et échanger avec eux sur l'ONU, son rôle et ses activités. Un autre rendez-vous à noter, c'est avec la CPI qui célèbre ses 10 ans d'existence. À cette occasion, la juge Fatouma Dembélé Diarra est attendue la semaine prochaine à Kinshasa, la capitale, où elle prononcera le discours inaugural de 3 journées scientifiques qui seront organisées dans ce cadre du 23 au 25 octobre 2012. Voilà tout. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Il vous a été présenté par Mireille Bukasa Mukendi grâce au concours de Jean-Pierre Elali Koko, Honoré Missenga et Nicole Ngakamadidi. Vous pouvez réécouter l'émission ce dimanche même à 19h03, mais aussi sur notre site internet radiocapi.net. Merci de rester avec nous.